Cette semaine à la vie en BD, on parle western en mode club de lecture. Bon mardi à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver, que ce soit ici sur les ondes du 89.1 CKRL, que ce soit en balado. Merci à tous ceux et celles qui plongent avec nous dans l'univers de la bande dessinée du 9e art, semaine après semaine, depuis déjà une douzaine d'années. J'en profite d'ailleurs pour mentionner que si vous voulez farfouiller dans nos anciennes entrevues, eh bien on a quand même une douzaine d'années d'archives justement sur lavieenbd.com si vous avez envie de vous y aventurer. Alors, on le disait tout à l'heure, en fait, cette semaine, on est en mode club de lecture, on est en mode aussi post-festival Québec BD, avec un peu d'engourdissement, d'événements, de vente de livres et de surfréquentation du centre-ville de Québec. Mais je ne suis pas seul pour affronter cette émission parfois difficile. Je suis en compagnie de mes collaborateurs du club de lecture et de mes libraires en résidence. Marco Duchesne, bonjour.
Bonsoir.
Édouard Tremblay, bonsoir.
Salut Raymond, salut tes auditeurs.
Émilie Roy-Brière, bon après-midi.
Hello.
Alors, évidemment, un plaisir de vous retrouver cette semaine. Et si vous êtes ici, je l'ai dit, c'est parce qu'on est en mode club de lecture. Je rappelle les règles pour ceux dont c'est le premier club de lecture parmi nos auditeurs et auditrices. Alors, essentiellement, un de nous quatre fournit une thématique. Chacun en lien avec cette thématique fournit un album, et tout le monde lit les albums de tout le monde pour qu'on puisse en parler dans le plaisir, l'allégresse et la gloire au fil de quelques 60 minutes. Et évidemment, pour ceux et celles qui nous écoutent fréquemment, ils ont remarqué aussi qu'il y a une certaine enflure qui se fait depuis qu'Émilie Roy-Brière a décidé de remplacer mes thèmes courts et concis par des phrases.
Ah ouais, fais pas semblant là.
Non, c'est vrai, c'est moi qui ai parti le bal.
Et ben maintenant l'enflure, ma foi, a atteint un certain paroxysme que j'espère qu'on ne dépassera pas. Et Edouard, ceci n'est pas un défi.
Non, mais pourquoi il faut toujours que vous transformiez ça en compétition?
Défi accepté.
Oh, quelle horreur.
Et donc le thème en fait que j'aurais tendance à simplifier pour les bénéfices de l'intitulé de l'émission et des menus sur le web western au féminin, mais donc plus précisément, ben la thématique du mois choisi par Marco, c'est, et je cite, « L'indépendance et la force de caractère de la femme d'aujourd'hui ont été forgées par la conquête de l'Ouest américain. »
Reprends ton souffle un peu.
Voilà, oui. Et on va en apporter la preuve ce soir.
Au fil de quatre titres, ma foi, fort différents d'ailleurs en termes de temporalité, parce qu'on a quand même les quatre été appelés, en fait du moins en partie, les trois étaient appelés par l'imagerie western et par des albums western du Québec, des albums récents, des albums un peu plus anciens également, et un album qui s'en distingue un peu et qu'on pourra justifier plus précisément en lien avec la thématique. Donc les quatre albums en cours de lecture, c'est Mad Alton de René Goscinny et Maurice chez Lucky Comics, c'est le tome 1 de la série Wild West, Calamity Jane de Jacques Lamontagne et Thierry Gloris. C'est le tome 1 de Ladies with Guns d'Olivier Boquet et Anne-Laure chez Dargo. Évidemment, vous aurez deviné que c'est un album fait en France puisque le titre est en anglais. Et enfin, La Fange de Pat Grant, c'est ici même édition. Alors, c'est les quatre titres et ben, je vais tourner mon regard doux et tendre vers Marco Duchesne qui a choisi ce paragraphe comme thème et qui a choisi Mad Dalton. Alors, pourquoi le thème et pourquoi Mad Dalton?
En fait, parce que d'abord, le western pour moi est assez récurrent. J'essaie d'en glisser un de temps en temps. Et cette fois-ci, en fait, c'est que Goscinny me manquait. J'avais envie d'aller vers un album de Goscinny, peu importe lequel, et je errais sans but dans la section jusqu'à ce que je tombe sur l'écriture. Je dis ah oui. Et là. J'ai flippant les albums, je suis tombé à Mad Alton. Ah oui, c'était un de mes premiers albums que j'ai acheté avec ma première paye. Et à partir de là, en le feuilletant un peu, j'ai dit ah oui, avec ces temps qu'on est en train de vivre, avec le féminisme, ces thèmes qui sont d'actualité, j'ai dit, celui-là est parfaitement d'actualité, car il parle de ces femmes qui, dans une époque où l'homme régnait et où la violence régnait pour essayer de survivre, ben, Mad Alton est l'exemple même de ce genre de femme-là qui a donné un exemple, là j'exagère, mais qui a vraiment marqué la BD, puis le western, et surtout dans la vision qu'en avait Goscinny. Parce que, à un moment donné, je suis tombé sur un petit fait... historique, de la vraie Mad Alton était pas loin de tout ça. C'est-à-dire que il a fallu qu'elle élève ses enfants, les quatre enfants, sans leur père qui, bon, là, Mad Alton, elle, son père est en prison, son mari est en prison, mais la vraie Mad Alton, la mère des vrais Dalton, en réalité, son mari est mort dans une partie de poker quelque part. Et vraiment, elle était comme ça, un peu, c'est-à-dire que c'est elle qui a dû prendre les rênes du foyer et de faire en sorte, peu importe ce qui arrivait, de faire en sorte que sa famille survive à n'importe quel prix. Et au-delà des tempêtes et de tout ce qui pouvait arriver, là, et ces garçons qui commençaient à être un peu plus rock'n'roll. Donc, Goscinny, qui, bon, on le sait, arrivait à se documenter, ben, effectivement, a dépeint un peu cette femme-là, mais a dépeint aussi une Mad Alton un peu matriarche qui gère sa famille dans ce monde-là.
Et en fait, tu le disais, en fait, un personnage d'inspiration historique, en fait, comme en prenait parfois Morris et Goscinny, qui sont intéressés d'ailleurs à un autre personnage emblématique de l'Ouest, Calamité Jane, qui a été aussi repris à moult fois. Et tu parles de survie, Édouard Tremblay, je pense qu'on est un peu aussi dans la survie dans ce tome 1 de Wild West, de la montagne et Gloris, donc Calamité Jane.
Ben, c'est le cas de le dire. En effet, j'aurais pu aller avec le très bon album de Lucky Luke, puisque le personnage justement de Calamity Jane est un peu celui qui va inspirer aussi tous les autres. Justement, c'est une figure qui va être emblématique de l'Ouest, autant justement parce que bon, c'est quand même une femme justement qui a décidé comme ça de laisser de côté un peu la vie, disons, appelons-la un petit peu plus traditionnelle de ce qu'on attendait d'une femme à l'époque, qui va vraiment embrasser le rôle d'un homme, la vie d'un homme, qui va se tenir aussi avec des figures quand même importantes, notamment Wild Bill Hickok, notamment Charlie Hutter, et au-delà, bon, de la BD qui est quand même magnifiquement illustrée, qui est déjà un peu, disons, ce qui m'avait frappé déjà d'emblée. J'aime bien quand on prend la peine justement aussi de montrer, surtout que là, bon, on découvre un peu les origines, donc qui était Calamity Jane avant, donc Martha Jane Canary, et donc avant la légende, de voir un peu comment tout ça prend son assise, comment tout ça vient au monde, comment on part d'une vie qui était... donc peut-être pas simple, mais disons assez rangé, à finir par devenir justement quelqu'un d'aussi emblématique. Et d'autant plus que bien souvent, quand on parle justement des légendes, et les légendes de l'Ouest font pas exception, souvent le mythe se mêle avec la réalité, et donc ben, c'est le fun d'avoir de temps en temps des gens comme ça qui vont essayer juste de vous ramener ça un petit peu terre à terre, essayer de... Pas que j'ai rien contre le mythe, il va s'en dire, mais c'est quand même bien des fois d'avoir un peu le fin mot de l'histoire.
Et je pense que par mythe, évidemment, t'amène aussi vers des mythes réels qui sont autogénérés ou des mythes qui sont créés, inventés par les auteurs ou du moins qu'on semble vouloir créer. C'est le cas un peu de Ladies with Guns, qui est la sélection que j'ai choisi d'apporter. C'est moi, ce mois-ci, qui a été dans le rayon des nouveautés. C'est un album dont j'avais envie de parler ici à l'avant-BD depuis un certain temps. Je suis aussi friand de western, et en même temps, dans ce western-là, on est un peu dans l'influence tarantinienne, j'ai l'impression, de la revision du western, mais un western qui est sanguinolent, qui est presque grand guignolesque à certains degrés, et un western qui met en place, dans le fond, cinq personnages féminins, chacun plus grand que nature, chacun confronté, si on peut dire, à un certain mépris, un certain rejet, un certain cantonnement à différents rôles sociaux, et qui, à travers la violence et la nécessité, mais en viennent à s'en émanciper. La violence violence, évidemment, qui est une porte vers cette émancipation-là et pas la finalité de la chose, et une violence qui vient à elle plutôt qu'elle recherche au départ. Le tome 1 qui met vraiment en place, je dirais, les assises de ce groupe-là, et ensuite ça se poursuit au fil des tomes subséquents, mais vraiment dans un récit qui est haletant, qui est rythmé, avec des personnages qui sont chacun à leur façon plus grands que nature, certains qui sont plus développés dans cet album-là, qui sont plus centrales. On parle par exemple d'une jeune esclave qui a réussi à s'échapper même s'il était enfermé dans une cage de fer, d'une aristocrate britannique qui s'est retrouvée célibataire à la mort de son mari, donc et d'une indienne qui cherche à venger son frère tué par justement la britannique. Et dans le fond, c'est ce trio-là qui est au cœur de l'album. Les autres viennent se bonifier par la suite, et on devine que on explorera aussi en parallèle les événements, la psyché de ces personnages-là. Mais quelque chose d'assez jouissif, qui est ma foi fort sympathique. Bref, on en reparlera. Et évidemment, ben, je pense qu'Edouard, Marco et moi-même, dans le fond, nos sélections sont assez claires en lien avec la thématique. Émilie Roy-Brière, t'as choisi de nous amener un peu ailleurs avec La Fange de Pat Grant, mais quand même un ailleurs qui reste effectivement complètement dans l'esprit de l'Ouest et de la ruée vers l'or.
Ouais, mais c'est ça, comment ça c'est pas clair? Comment ça c'est pas un western? Come on!
Ben faut que je crée un petit peu de suspense dans l'émission, Émilie.
On a une ruée vers l'or absolument fabuleuse. En fait, La Fange, c'est une espèce de marais parfaitement dégueulasse. Tout ce qu'on met là-dedans va se mettre à pourrir, à rouiller, ça s'attaque au corps, faut pas marcher là-dedans, pas de bottes ni rien, mais au fond de ce marais putride au possible, il y a de l'or. Donc il y a moyen de faire fortune dans la fange, puis comme toutes les ruées vers l'or, ou en tout cas la manière dont je me les imagine, et on va avoir un village qui se bâtit sur l'espèce de dernier bout de terrain disponible, des prospecteurs vont s'établir, puis ben c'est l'espace de tous les possibles. On va donc avoir deux jeunes adultes qui vont arriver avec leur mère. Leur mère les envoie là pour ouvrir une succursale de l'entreprise familiale de yogourt, ce qui semble être la pire idée de tous les temps, mais bon, ils ont pris leurs économies, ils ont mis le cap vers la fange, ils croisent toutes sortes d'individus bizarroïdes sur le chemin en s'en allant, puis on voit ce que la fange fait aux gens aussi, avec des espèces de vieux chars tout pétés, puis bon, des gens à qui manquent des membres, mais qui sont couverts d'or. Puis, dans les deux frères, il y a clairement un enfant préféré, et il y en a clairement un qui est réellement prêt à ouvrir cette boutique de yogourt contre vents et marées, avec toutes les espèces de levures qu'ils ont apportées, puis non, ça a vraiment pas l'air bon. Puis, il va y avoir le deuxième frère qui ressemble absolument pas à l'autre. En fait, il ressemble ni à son frère ni à sa mère. On se dit qu'il est peut-être adopté, on sait pas trop. Je pense que dans l'album, c'est jamais mentionné.
Non, jamais.
Puis, lui décide de voir finalement quelles sont les possibilités que lui offre cette ville, où est-ce que c'est le free-for-all ou c'est le Far West.
Alors, donc, ces quatre albums donc, qui explorent cette thématique liée au western et au féminin. Édouard Tremblay, par où on commence?
Ben, je pense qu'Émilie l'a bien, bien souligné. Je veux dire, le Far West, le western, l'ouest sauvage, au-delà d'une définition géographique, hein, ça peut pas se limiter juste...
C'est un état d'esprit.
C'est un état d'esprit. Ben, tout à fait. Ben, en fait, c'est quelque chose qui répond justement à plusieurs critères, plusieurs thématiques comme ça, récurrentes et qui doivent être présentes. Et c'est pour ça que, bien souvent, tu sais, on va se retrouver comme ça avec des westerns qui sont pas nécessairement justement dans l'ouest américain, mais pensons à la série de Mandalorian qui je veux dire, clairement, un western, là, je veux dire, tous les éléments sont là, mais...
Ben, comme John Carpenter ne fait que des westerns aussi,
ben, au final. C'est ça, donc il y a moyen de prendre ce western, de prendre cette ambiance-là, de la désolidariser, de la mettre un petit peu partout, mais avec justement l'importance de retrouver ces critères-là, ces points d'ancrage. Et il faut bien le reconnaître, un des points, je pense, caractéristiques de l'Ouest, c'est que c'est dur. C'est dur. C'est dur à la vie, c'est dur aux gens. Je veux dire, c'est les maladies, c'est la violence, c'est le crime, c'est le... Je pense que Calamity Jane, en fait, le premier de Wild West, est à quelque part, de par son réalisme, justement, un de ceux qui montre bien à quel point être une femme, je veux dire, à l'époque, et pendant très longtemps, là, je veux dire, on est circonscrit à quelques rôles très, 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 très réduits. Je veux dire, soit on se marie, soit on entre dans les ordres, soit on devient une prostituée, bon sang, parce que c'est ça, je veux dire, la vie est impitoyable et circonscrite comme ça. Et c'est, je pense, qui fait la beauté de Martha Jane Canary, de Calamity Jane, c'est-à-dire qu'elle a pris ces trois options-là, elle a fait de la marde. Moi, j'ai pas ça, ma vie, c'est pas ce que je veux. Les circonstances vont l'amener aussi comme ça. Mais, je veux dire, c'est d'avoir eu cette audace et ce courage-là de faire tant pis. Non, moi, je vais faire la même chose que les hommes. Je vais suivre le même chemin avec, puis advienne que pourra, puis en sachant pertinemment qu'elle allait se le faire dire assez souvent. Mais, hein, quand même, quel bel exemple de ce que Marco disait, là. Je veux dire, c'est une inspiratrice, c'est une guerrière.
Et je peux mentionner sur Wild West, avant de plonger dans la discussion, dans le fond, pour moi, ça représente bien aussi une certaine nouvelle tendance western, mais plus large que simplement la bande dessinée. Dans la mesure où j'ai l'impression que les influences, et j'en jasais avec HD la semaine dernière à l'émission, et dans le fond, essentiellement, les influences ont changé. Dans le fond, le western à l'époque de Lucky Luke et autres, la référence c'était Léon, c'était Butch Cassidy, The Sundance Kid, c'était ce type d'univers-là. Il y avait quand même une lenteur, il y avait des regards, il y avait un rythme qui était particulier au western de cette époque-là.
Et un machisme aussi.
Peut-être aussi. Tranquillement, dans le fond, avec l'émergence du petit écran, mais surtout des séries télé à grand déploiement, il y a des nouvelles références qui sont créées, et c'est clair que Wild West emprunte beaucoup de son rythme et de ses particularités, de sa saleté à Deadwood, par exemple, qui est devenu peut-être le canon de ce qu'est aujourd'hui un western dans le côté réaliste autant que dans le style.
Et aussi de prendre, en fait, de prendre le parti, les deux auteurs prennent le parti de, je veux dire, raconter la vie de Calamity Jane c'est-à-dire, ça a été fait plusieurs fois au cinéma, en roman, et on part pas de n'importe quoi. On parle aussi, elle a laissé des lettres qu'elle a écrites à la seule enfant qu'elle a eue, une fille. Elle a écrit des lettres à sa fille, donc il y a de quoi se baser et tout. Mais les deux auteurs prennent le parti de laisser cette partie-là de Calamity Jane qui à Deadwood, Calamity Jane dans l'armée comme éclaireur, mais ils décident de prendre partie de raconter comment est née Calamity Jane. C'est-à-dire, ce qu'on a dans Calamity Jane Wild West Tolman, c'est la fin de la vie de Mary Jane Canary. En fait, comment elle est devenue, parce que fille naïve qui travaille en ville, au saloon, qui finit par « non, je ne veux pas ça », mais là, l'existence va lui prouver que là, ce que tu veux pas, des fois, surtout dans le monde dans lequel évolue Canary, dans ce Far West-là, dans lequel la violence est monnaie courante et les hommes prennent ce qu'ils veulent quand ils veulent, s'ils sont les plus forts, parce que les plus faibles, ben, ils vont périr. Alors, ils prennent le parti de raconter ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme tu disais, effectivement, ça vient de cette nouvelle façon de raconter, de prendre le temps de pouvoir raconter des choses plus en longueur, mais aussi plus en profondeur. Chose que on n'était pas habitué avant ces séries télé, avant cette nouveauté-là, de dire, ben là, Calamity Jane, on la connaît, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me rappelle d'un album où on... qui était sorti sur une des la dernière victime de Jack l'Éventreur. C'est un album de BD qui racontait la dernière victime de Jack l'Éventreur, mais on nous racontait pas comment elle est morte, on nous racontait comment elle s'était rendue à Londres tout le long de l'album. Et c'est ça qui est intéressant le plus, de développer ce genre de choses-là, parce qu'au-delà de ça, t'sais, Calamity Jane est déjà une légende, un mythe de l'Ouest américain, t'sais. Et comme disait le journaliste à la fin de qui a tué Liberty Valance, le journaliste dit au gouverneur Stoddart, il dit, qui s'était fait raconter l'histoire de qui avait vraiment tué Liberty Valance, il dit, ben, si la légende est plus grande que la réalité, moi j'imprime la légende, là.
Mais ce qu'on nous raconte dans Calamity Jane n'est pas légendaire, justement. C'était un peu mon premier choc en abordant cette bande dessinée-là, parce que là, je me dis, ah ouais, Calamity Jane, ça va tirer du gun partout, tu sais, puis finalement, Absolument pas. Absolument pas. Ça va être le récit, justement, d'une, t'sais, d'une fille qui essaie de vivre une existence relativement rangée dans une ville de l'Ouest. Bon, il y a de la prostitution, mais c'est pas pour elle. Elle a fait simplement servir les verres au bar. Puis, ben, peu à peu, l'étau se resserre par la violence verbale, surtout économique, parce que là, elle se ramasse avec des dettes qu'elle peut pas rembourser. Puis, il y a pas de moyen de s'en sortir autre que la prostitution dans l'éventail très très limité de ce qui s'offre à elle. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'Edouard a mentionné tantôt aussi, la violence économique, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Je pense que ça fait juste comme deux générations qu'une femme peut ouvrir un compte de banque à son nom, ce qui peut expliquer énormément d'abus.
Et ça va loin, en fait, dans le parti pris du réalisme aussi. Et je pense que les auteurs, à la fois dans le respect de leur personnage, dans le respect du chemin qu'ils doivent lui faire parcourir, ils semblent pas non plus rechigner à montrer des choses qui sont difficiles, qui ont sûrement été difficiles à dessiner aussi, je pense, de l'aveu même du dessinateur. Mais la scène de viol, par exemple, qui est un pivot important à l'intérieur de l'album, mais reste qu'elle est nécessaire, elle est confrontante, mais dans le fond, on nous amène vers là et on travaille les conséquences, les suites et comment d'aller jusqu'au... De se retrouver confronté jusqu'au bout de cette relation de domination-là, parce qu'au bout du compte, la violence économique aussi, c'est des formes de domination. Ben, en imposant jusqu'au bout cette domination-là à cette personne-là, ben, on crée un point de rupture et un point de non-retour, au final, qui est complètement créé par cet étau-là qui va se resserrer jusqu'à tenter de broyer cette femme-là, au final.
Ben oui, puis elle va devoir s'en affranchir avec une violence équivalente. Heureusement, il va y avoir un outil de démocratie particulièrement efficace, le Smith & Wesson.
Ben, c'est toujours ce qu'il disait, oui.
L'ultime démocratie.
Comme qui disait ça, oui, c'est Samuel Coates, c'est ça que Dieu a créé les hommes, Samuel Coates les a rendus égaux. c'est un peu ça, mais en même temps, je veux dire, cette liberté-là, elle va quand même... Elle va payer le prix aussi de cette liberté-là. Ben oui. Là, je veux dire, c'est encore une fois, je veux dire, c'est une vie qui justement qui est très difficile, qui est dissolue, qui est à la dure, puis avec tout ce qui vient avec. Pas parce que c'est une femme, je veux dire, pour un gars aussi, c'est, je veux dire, c'est des vies qui étaient épouvantables. Moi, ça, le chasseur de primes, ses routes, ou éclaireur pour l'armée.
En fait, c'est des vies qui sont beaucoup romancées, mais quand tu ramènes au réalisme, c'est pas glamour.
Tu sais, c'est ça, et c'est justement un peu bon dans la perspective de ce que tu sais Marco disait. Et tout, tu sais, comment qu'on raconte, mais c'est une approche que je trouve qui est intéressante, parce peut-être justement à cause de mon background d'historien, mais c'est ça aussi, tu sais, je veux dire, pour l'anecdote, c'est le fun d'avoir ta mythologie, tu sais, d'avoir ton personnage qui est tel qu'il est. Voilà, on a un jour Calamity Jane vêtue, tu sais, à la Daniel Boone avec son gun sur le bras et tout. Bon, c'est beau, si on a le symbole, on a le truc, mais je veux dire, c'est comme arriver puis dire un jour, bon, on a Napoléon ou bon, on a la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais ça apparaît pas comme ça avec ce nihilo, ça, là. Je veux dire, c'est un construit. C'est la même chose que quand je parlais, par exemple, quand on parlait de la BD de Ed Gein, c'est la même chose, tu sais, je veux dire, c'est t'arrives pas à un point comme ça de ta vie où, tu sais, un matin, tu te lèves pis tu fais comme, ben, je vais me mettre un chapeau de un casse de poêle sur la tête pis je vais partir comme ça, ces routes, advienne que pourra, avec, oui, des gens qui sont mes amis, mais je veux dire, encore une fois, tu sais, il faut imaginer, là, je veux dire, elle part avec Hitchcock, avec Charlie Hutter, puis bon, ça se trouve que c'est des bons Jack qui tiennent à elle, puis tout. Mais je veux dire, ça aurait pu prendre complètement une autre tangente. Ouais, pis elle fait quoi, là? T'sais,
mais tu sais, il y a toute cette zone grise-là. Ben, l'Ouest, c'était vraiment ça, là. C'était que des zones grises, là.
C'est un parisien tous les fois.
Walbill Hitchcock a été homme de loi, mais il était poursuivi dans deux ou trois États, là, parce que il avait peut-être dégainé un peu trop vite, là. Et c'est celui dont, qui avait tué quelqu'un parce qu'il avait touché son chapeau. Avis à tout le monde. Et tu sais, toutes ces zones grises. Wyatt Earp, même que, tu sais, quand il débarque à Tombstone, et ça, c'était documenté. Lui, il était là pour faire de l'argent, là. Puis la façon de faire de l'argent, c'était dans un saloon, à la table de jeu, puis peut-être pas être réglo. Ce qui fait que toutes ces zones grises-là font en sorte que, tu sais, bon, ce qu'on en retire, c'est vraiment les faits d'armes, mais à un moment de... Même pour Camille T. Jane, bon, elle a fait... Elle était éclaireuse pour l'armée, elle a fait les guerres indiennes, mais bon, ces guerres indiennes-là, ça aussi, ça reste... Je veux dire, les actes, tu sais, on peut bien faire de nos héros puis aller choisir juste ce qui nous plaît pour en faire des héros, mais cette époque-là. Je pense que, ben, comme toutes d'autres époques, Antoine, en tant qu'historien, il y a moyen de... Moyen-Âge, les chevaliers, ça aussi, là, ça devait être quelque chose. Mais à cette époque-là, toutes ces zones grises-là,
parce que même là, c'est que t'as plus de loi, t'as plus de... On le voit dans tous les westerns. Quand quelqu'un arrive chez vous, je veux dire, tu l'accueilles avec un fusil, là. Parce que tu sais jamais. Il arrive une gang, ils sont 5-6. C'est-tu des bons gars? C'est-tu des mauvais gars? T'as toujours cette tension, cette nervosité, cette peur.
Puis je tiens à souligner, d'ailleurs, c'est sur Calamity Jane, ceci. Quand on fait le pari du réalisme en bande dessinée, et qu'on choisit d'aller avec un dessin réaliste aussi, il faut pas manquer son coup. Ça devient un équilibre qui peut être extrêmement risqué si le dessin est pas à son paroxysme, si on peut dire, s'il y a quelque chose qui nous fait décrocher. Et je pense que La Montagne, avec cette série-là, aurait vraiment été au bout de son dessin. Je veux dire, c'est vivant, ça a pas l'air à des photos, c'est dessiné de façon extrêmement précise. Chaque dessin doit prendre une somme de travail hallucinante à faire, mais on sent la saleté, on sent les odeurs, on voit les textures sur la peau. Je veux dire, c'est un dessin qui est magnifique et qui permet à la BD d'aller jusqu'au bout dans son pari du réalisme.
Oui, puis le scénariste, en passant, lui aussi a fait ses devoirs.
Oui.
Même avec ses clins d'œil. Alors, pour l'anecdote, quand un jeune homme rentre dans un saloon pour essayer de défier Wild Billy Cock, ce jeune homme se dit s'appeler Marion Morrison, qui était le nom de John Wayne, en fait, le nom de naissance de John Wayne. Et autre anecdote, c'est que Marion Morrison, John Wayne, a changé de nom, mais quand il était jeune, il détestait son nom. Il se faisait appeler Duke, c'était le nom du chien. Alors, ça vous rappelle Indiana Jones, à la fin, qui a pris le nom du chien parce qu'il voulait pas son nom. Alors, mais tout ça pour dire, le scénariste de Calamity Jane a vraiment fait ses devoirs.
On parlait, hein, justement, de un peu, bon, les zones grises, justement, comment les personnages, puis dans le Far West, hein, comment ça s'y prête assez bien. Et donc, ben, c'est inévitablement, tu sais, question de, j'irais, de pouvoir créer, hein, des héros comme ça, ou des héroïnes, hein, qui sont, disons, plus attachantes ou peut-être plus monochromes. Ben, on en arrive à devoir, et c'est le cas avec, je pense, Ladies with Guns aussi, doubler, disons, ce statut féminin qui, dans le contexte du Far West, on le disait, est déjà pas évident. Et là, en plus, on va le magnifier ici en ajoutant les préjudices. Et Dieu sait qu'il y en a, hein, notre florilège de personnages. Ben là, on a, tu sais, une Anglaise qui est une femme seule, elle vient de perdre son mari, donc déjà en partant, elle est pas dans une situation facile. Mais là, en plus, vous rajoutez une autochtone, vous ajoutez une esclave, vous ajoutez une vieille dame seule, vous ajoutez une prostituée. Donc, question, disons, c'est ça, là, on a un assez beau panel, à mon avis, de tous, justement, les préjudices, de toutes les situations où, dans le fond, on a, je pense, le ce que j'appellerais les promesses non tenues de l'Amérique, là, tu sais, l'égalité pour tout le monde, mais voilà toute la liste de gens qui sont pas égaux, là.
Enfin, le rêve américain n'est pas pour tout le monde.
Non, tu sais, à moins que tu sois blanc, ben, tu sais, si t'es pas blanc, protestant, l'égalité pour tout le monde, on repassera, là.
Ben, oui, mais, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est, oui, bon, là, on a décidé de donner cette parole-là à des héroïnes venues de toutes les sphères de, mais en plus, subir la violence des hommes la plupart du temps et tout, mais entre elles, ils se font pas confiance, là. Dès le départ, y en a une qui veut régler le compte à l'autre parce qu'elle a tué son frère. Tu sais, je veux dire, même à ça, même entre elles, elles agissent comme des hommes, là. Au début, en tout cas, pour ce qui est du début.
La sororité est pas là dès le départ, mais va s'installer progressivement. Et on comprend qu'au terme de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'elles ont traversé pendant le premier tome, mais que la sororité est là et est placée pour le deuxième tome.
Mais je pense que tu me l'avais apporté, tu m'avais dit, ah oui, donc c'est ça, c'est ma BD, Ladies with Guns, c'est juste assez violent pour être satisfaisant. J'ai OK, d'accord. Donc là, je me lance là-dedans, puis ça commence quand même pas mal sur les chapeaux de roue. Hein. On a justement l'esclave noire qui a 14 ans, qui est enfermée dans une cage de fer. Elle a pas la clé. Il y a des loups qui s'approchent, qui se mettent à l'attaquer. Elle se fait sauver la peau. Puis, outre, je dirais ce panel de femmes très très différentes qui effectivement ont l'air de traîner tout un bagage avec elles. Moi, j'aimais énormément la manière dont elles étaient mises en contact les unes avec les autres, parce que bon, la jeune fille qui se fait attaquer par les loups, qui est défendue par je pense que c'est Abigail, la pionnière britannique, ben à chaque fois qu'elles vont entrer en contact, en tout cas dans la grande majorité des cas, ça va être par empathie, tout simplement. Comme justement, il y en a une qui attrape une maladie, bon, l'autre va au magasin général, elle va se mettre à cogner à la porte. J'ai besoin de couverture, j'ai besoin de médicaments, j'ai besoin d'une scie à métaux. Puis, ben, elle se fait virer de bord par l'épicier. Là. L'épicier ne veut jamais la servir parce que, ben, elle a l'air d'une clocharde. Puis, dans le magasin, il y a une vieille madame qui est en train d'acheter des affaires. Puis, elle dit, ah oui, tu rajouteras sur ma facture des médicaments, des couvertures, puis une scie à métaux, s'il te plaît. Puis l'épicier dit, voyons, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, tu sais? Parce que, ben, il y a quelqu'un dans le besoin à ce moment-là. Puis, voyons, il y a à la fin aussi, où est-ce que, bon, toutes les filles se ramassent désarmées, la maison est cernée. Puis, ça pourrait quasiment s'appeler Ladies Without Guns, parce que toutes leurs guns sont à l'extérieur. Puis, ben... il y a des hommes qui entrent dans la maison, ils se mettent à attaquer tout le monde, ça tire partout, puis ben elles vont se défendre avec une aiguille à tricoter, un chaudron, un balai, puis je pense une tarte aux pommes, quelque chose comme ça, c'est absolument génial.
Et ce qui est triste à travers tout ça, c'est de voir, c'est, au bout du compte, chacune de leurs actions est légitime, dans le fond. Ils sont soit en défense personnelle, soit simplement en entraide, soit mis dans des situations impossibles par les forces extérieures, et au final, à la fin, ben c'est elles qui deviennent, au bout du compte, les criminels qu'on recherche. Donc, un peu comme pour Calamity Jane, c'est des rôles qu'on a forcés, un peu qu'on les a forcés de prendre, parce qu'elles cherchaient autre chose que ce à quoi elles étaient destinées, ou que ce à quoi leur sort était imposé dans le cas de l'esclave, par exemple, ou cherchaient l'égalité, comme dans le cas de l'Amérindienne. Donc, c'est on rompt complètement ce rêve américain-là. Donc.
Ben oui, parce qu'encore une fois, on est condamné justement par notre statut, parce que, et Marco le soulignait là, je veux dire, dans l'Ouest justement, ben souvent le shérif était loin, t'avais pas grand... fait
ah ouais, le shérif est assez inefficace.
Non,
aussi,
c'est ça, les shérifs sont pas toujours super efficaces. Je veux dire, t'avais le droit de ta légitime défense là. Je veux dire, si quelqu'un menaçait ta vie, puis que t'avais assez de témoins qui étaient capables de dire, écoutez, non, on a vu clairement que, je veux dire, il a dégainé le deuxième, puis c'était pour se défendre. Normalement, t'étais pas ennuyé par la loi, là. Et là, bon, là, des dames qui sont justement, là, je veux dire, ils se défendent, là, ils font. Mais c'est des dames, c'est des esclaves, c'est des. Donc c'est encore une fois, c'est le préjudice qui les condamne, là.
Ça fait un peu penser, je sais pas si vous vous rappelez Clint Eastwood, l'hommage qu'il avait fait à ses films de Léonie Unforgiven. Ben, au bout du compte, ça commence avec une injustice.
Voilà.
Comme celle-là, où finalement, on dit, ben, regarde, c'était juste une prostituée, sa vie compte moins que la vie d'un autre. Voilà. Alors, donne des vaches, ça va être correct, c'est son cheval, le problème. Je veux dire, c'est flagrant, et effectivement, Bocquet et Allon mettent ça en évidence, mais en créant quand même quelque chose, pour reprendre un peu l'agression, je disais, c'est violent, c'est déluré, je parlais de Grand Guignolès en début d'émission, donc il y a quand même une folie aussi, une énergie qui ressort beaucoup de cet album-là, et donc c'est pas fait, on prend pas le pari du réalisme comme dans Wild West, mais on amène ça dans un presque un fantastique héroïque à travers l'imagerie de l'Ouest.
Un Django Unchained.
Exact. Mais ce qui l'exempte pas, évidemment, un peu comme Django d'ailleurs aussi, du message qui est latent, qui est derrière ça et qui vient justifier essentiellement tout ce qui se passe et essentiellement cette rébellion-là qu'on nous met de l'avant et qui nous rattache au thème que Marco avait choisi au départ, au final.
Finalement, oui.
Ben et puis je me disais d'autant plus intéressant en fait que bon évidemment hein, après toutes ces épreuves là nos pauvres dames et Dieu sait il reste encore des épreuves, mais je me suis lancé dans le deuxième tome parce que j'ai eu tellement de fun avec le premier, comme on disait, l'ambiance de Tarantino et tout le kit, et il y a une couple de scènes épiques dont une où elle retourne en fait au magasin pour venir chercher une scie des pour la même affaire, écoute c'est magnifique, mais tout ça pour dire, écoutez, continuer la série, c'est vraiment bon. Mais je me dis, tu sais, celles qui restent là, à la fin de tout ça, là, celles qui réussissent à survivre à toutes ces épreuves-là, là, justement notre Calamity Jane, notre Ladies with Guns qui passe à travers ça, qu'est-ce qu'elle devient? Ben, clairement, elle devient Madalton. Clairement, elle devient endurcie. Je veux dire, un clou de fer, d'acier trempé qui est Mad Dalton, écoute, l'intouchable, la femme de fer, écoute, la maîtresse femme qui impose aussi un peu tout l'esprit du Far West, bon, tout l'esprit de du Sud américain, là, tu sais, yes ma'am, no ma'am, ou tu sais, tu peux être le gars le plus mal élevé ou le plus dissolu du monde, mais il y avait une politesse essentielle que fallait que t'ailles avec des dames comme ça, parce que sinon, tu te le faisais dire pis ça traînait pas. Et j'avoue que bon, je dois reconnaître, moi, Mad Dalton, j'avoue que c'est un album aussi pour lequel j'ai un très, très, très gros attachement. Mon père est un fan fini aussi, des, justement, des Lucky Luke qu'on écoute ensemble et tout. Puis, je veux dire, ma mère, on l'a surnommé Mad Dalton pendant des années. Donc, c'est vraiment un album aussi qui est très, très cher. Et puis, je veux dire, la dynamique avec les fils, comment qu'elle tient, tout ça et tout. Parce qu'on, on, tu sais,
c'est aussi l'image même. Il y a une image à l'intérieur et moi ça m'a sauté aux yeux. L'image même, le ce qui résume non seulement Mad Dalton, mais comment ce genre de femmes-là ont survécu et tout, c'est qu'elles domptent le monde sauvage. C'est Mad Dalton qui dit à Rataplan coucher et qui
ouais,
dit
mais là, Rataplan, monde sauvage, le common.
Non, mais tu le vois, il court après le chat, il essaie à lui-même, il court après le chat et tout, mais elle lui dit coucher et il s'enlèvera plus jamais. C'est la femme.
Et
c'est non, cette femme-là.
Et pour confirmer, jamais vu Rantanplan obéir à rien dans tous les albums de Lucky Luke, sauf Mad Dalton. Oui.
Et d'ailleurs, parenthèse aussi là-dessus, ça devient des ressorts comiques qui montrent un peu l'étendue de ce personnage-là, mais en même temps, je veux dire, Lucky Luke, dans ma tête, c'est pas les séries non plus émotives. Les Dalton, c'est pas des bandits émotifs. Évidemment, il y a toute la dynamique familiale qui est quand même particulière, qui est exacerbée dans cet album-là. Mais à un moment donné, il y a une scène qui est quand même carrément touchante avec Joe Dalton. Quand ses frères sont prisonniers, elle lui parle cœur à cœur. Et je me dis, mon Dieu, OK, il y a quand même ça aussi qu'on oublie dans Lucky Luke, un côté humain qui est là, qui est présent, qui est pas exacerbé. Mais dans l'exploration de la dynamique familiale, ben ça devenait un peu essentiel d'explorer la dynamique particulière que Joe avait avec Mad Dalton.
Oui, et la scène d'avant où là ils ont écumé la région habillée en Mad Dalton et soudain elle le découvre et là elle le punit, mais après elle lui dit c'est sous ma gouverne que nous allons écumer l'Ouest. Et tu sais, il y a déjà encore là. Ça, c'est dompter le sauvage, c'est ça aussi. Mm-hmm. Dompter le monde sauvage, c'est dompter Joe Dalton. Et ça, laisse-moi dire qu'il n'y a rien que Mad Dalton pour le...
Et s'assurer qu'Avril a ses 3 repas par jour.
Tout à fait, son GG.
Non, ce que j'adorais là-dedans, c'est qu'au début de l'album, on fait la connaissance de Mad Dalton qui fait ses courses en allant faire des hold-up chez le boucher, chez l'épicier, etc., etc. Elle va lever sa tête vers Lucky Luke parce qu'elle est très, très petite, puis elle a son grand chapeau, puis on la voit pas bien. Puis, elle lève la tête, puis on reconnaît immédiatement Joe Dalton avec le gros menton, puis pas de moustache. Donc, ce qui est comique au début va devenir un moteur d'action parce que les Dalton s'en rendent compte en se rasant la moustache, en portant les vêtements de leur mère. Ils peuvent se faire passer pour Mad Dalton et aller écumer les banques de la région.
Ils se travestissent.
Oui, absolument.
Ben, oui, hein, on reste dans l'air du temps.
Et on joue, en fait. On joue avec le stéréotype, dans le fond, la vieille femme qui est inoffensive, etc. Mais finalement, on oublie le côté clou de la chose. Mais dans le fond, il profite un peu de cette image-là, au même titre qu'on comprend que Mad Dalton en profite elle-même, parce qu'elle donne l'impression que son pistolet est pas vrai, que c'est un jeu, alors que son pistolet, il est vrai, alors qu'elle est capable de tuer un serpent avec son fusil. Mais elle embarque...
À la page 2,
mais ouais. À la première page, bon, on pourrait avoir l'impression, ou du moins, on comprend que l'ensemble des commerçants d'ensemble des villages ont l'impression que c'est une vieille dame inoffensive.
Oui, mais je pense à la relecture. Je sais que elle fait des hold-up dans tous les commerces et les commerçants expliquent à Lucky Luke qu'on s'est tous cotisés, on fait semblant que tout ça.
Mais je pense
que Mad Dalton est au courant qu'ils font semblant. Parce qu'à un moment donné, quand ça change d'abord, parce que son revolver d'abord, on nous montre qui est opérationnel là, ça. Mais quand elle décide que là faut aller aider puis qu'elle a besoin de, elle va voir l'épicier, ben, je vais prendre ton chariot et tout. Je pense qu'elle est au courant que il savait que, en fait, elle le sait que les commerçants faisaient semblant, mais pour y montrer, elle tire à côté puis là attends là. Et je pense qu'elle est pas si naïve que, en tout cas au début. Moi, à la relecture, j'ai trouvé qu'elle n'était pas si naïve que ça.
Oh non.
Non, pas du tout. Non, non, puis d'ailleurs, c'est ça, le boucher est le premier surpris, là. Oh mon Dieu, je me suis fait attaquer par Mad Dalton. Ben oui, tu sais, comme tous les mercredis, là, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans?
Ouais, mais je pense qu'en même temps, il y a un petit peu ça, tu sais, c'est comme c'est ces gens-là qui se donnent bonne conscience, tu sais, puis en même temps, qui se rassurent aussi à quelque part, parce que justement, tu les laisses braquer, tout ça est dans un contexte, disons, plus...
La famille?
Mais je veux dire, c'est ça, là, on pourrait même aller jusqu'à la charité chrétienne, parce que c'était un peu ça, tu sais, des fois, devenir une vieille dame,
une vieille
personne, désœuvrée, mais reste que c'est ça, puis...
Mais c'est la mère des Dalton, donc... Ils veulent pas de représailles.
Non, c'est ça, t'as intérêt,
en,
là.
Ils en prennent soin, tu
sais. Un matin, c'est ça, parce que là, c'est les fils débarquent, on dit, écoute, là, on a des comptes à rendre, c'est notre mère, pis tout. Non, non, c'est toute une dynamique pour un album, quand même, pis c'est ça, c'est pour les enfants et tout, mais je veux dire, tu sais, c'est ça, le persona est tellement fort, au-delà de la caricature, je veux dire, c'est tout à fait ça, là. C'est ces femmes-là qui survivaient à l'Ouest, là. C'est eux autres qui étaient capables de, puis encore une fois, là, tu parlais, c'est inspiré de la vraie Mad Dalton.
Oui.
C'est ça. Écoute, hey, monoparental, je veux dire, c'est dur aujourd'hui.
Elle s'occupait d'une ferme, là. Je vous invite à lire la notice biographique, là. Elle s'occupait d'une ferme, là. Dans l'album, c'est moins évident, mais elle s'occupait d'une ferme, elle s'occupait de ses enfants-là. Et quand ces enfants-là prenaient la prison, et quand ils ressortaient, elle s'en occupait. Tu sais, pour survivre à tout ça, il fallait vraiment faire fort, là.
Oui, oui, parce que là-dedans, Mad Dalton, elle a l'air de rien. Tu sais, elle est représentée comme une espèce de petite vieille qui tricote avec son chat sur la page couverture. Mais merde, tu sais, Mad Dalton, quand ses fils sont pas là, elle gère toute seule, là.
Tout à fait.
Elle a sa maison, elle fait ses courses, elle a besoin de personne. Puis c'est quand ses fils débarquent qu'eux ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin d'un refuge, ils ont besoin de changer de vêtements, ils ont besoin de nourriture. C'est elle qui fournit tout ça, là, pour cinq.
Puis elle est tout équipée pour les évasions et tout.
Oui, 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 c'est vrai.
Mais je veux dire, c'est elle qui donne la voix aussi. Je veux dire, les Dalton sont des Dalton parce que Ma les a alignés là-dessus. Et je me dis, quelle belle transition, parce que je suis fort comme ça, avec la fange, où on a justement quand même une des deux personnages féminins qui sont quand même très intéressants et quand même assez proches. Moi, je dirais deux femmes d'affaires, mais chacun à leur manière. Mais justement, bon, on a ici deux jeunes gens qui doivent reprendre un peu, s'établir, bon, reprendre le commerce familial. Mais derrière tout ça, c'est encore une fois, c'est la volonté d'une maître-femme, c'est la volonté d'une chef de famille qui dit, regarde, on va s'installer là, on va prospérer là. Et je veux dire, s'il y a un des deux frères qui trouve son compte, parce que visiblement, disons, la loi du plus rusé qui a l'air de dominer vraiment l'endroit lui convient bien. Je veux dire, l'autre qui se ramasse avec tout le poids de l'argent puis de bâtir l'entreprise et tout, je veux dire, lui, c'est un chien dans un jeu de quilles, là. Il se fait amener là, puis c'est comme, OK, bon, voilà, la volonté maternelle a fait que là, je suis pris, faut que je me dépatouille, puis je vais passer la BD, essayer de me dépatouiller pour concrétiser quelque chose pour ma mère, et au final, ben là, je sais pas si je blow le punch, en tout cas, mais bon, disons que la fin va laisser le pauvre titre quand même, disons, assez sur son... assez sur son 38, là. Ça va être comme...
Oui, puis c'est entouré, en fait, pis c'est les personnages féminins qui mènent le jeu, en fait, au bout du compte, soit en donnant l'objectif de départ, soit en expliquant aussi pour l'autre personnage féminin qui est au cœur, parce que, dans le fond, chaque un des deux frères va engager, dans le fond, une ressource pour l'accompagner, pour le guider, et c'est un peu le pari difficile qu'on a à faire au départ. Est-ce qu'on choisit un allié ou un ennemi, et est-ce qu'on a conscience de ce statut-là comme tel? Est-ce que les gens que l'on rencontre sont vraiment ce qu'ils semblent? Et, ben, le frère autre, celui qui est pas comme sa mère, dans le fond, lui va faire peut-être le pari un peu plus juste, et va comprendre, dans le fond, les rouages de ce qui se passe, les rouages du jeu qu'il y a dans cette ville au cœur de la Fange, et au bout du compte, c'est un peu ce qu'on va voir se dérouler avec son autre frère, sans trop se vulgâcher non plus, mais il y a une dichotomie qui est intéressante au bout du compte là-dedans, et avec plein d'autres personnages qui chacun accomplit un rôle à l'intérieur de cette cité-là, qu'on découvre aussi au fil de l'album. Donc le lieu devient également un personnage, et le dessin de Pat Grant, je pense, en dépeint bien la saleté, l'odeur nauséabonde et la putritude qui s'en dégage.
Ah ben oui, mais je racontais ça en dehors des ondes tantôt quand les micros étaient fermés. Cette bande dessinée-là est un cauchemar dermatologique. non, mais c'est complètement idiot, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de peau dans ma vie. Tu sais, genre, j'ai une peau qui fait de l'eczéma. Puis juste l'idée de m'approcher de cette ville-là me terrifie. Mais même à ça, c'est une bande dessinée pour laquelle il n'y a pas de suite qui a été annoncée, ou en tout cas pas encore. Peut-être que l'auteur est sur d'autres projets, mais je pense qu'il y aurait de la place à continuer à fréquenter cet endroit-là parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter.
Oui, puis parce qu'au bout du compte, c'est à travers les personnages, mais c'est les règles de cet endroit-là, au bout du compte, qu'on nous raconte aussi. Et des rouages qui, finalement, ben, on comprend à la fin de l'album, qui implique peut-être une deuxième lecture parce qu'il y a des éléments clairement qu'on nous avait mis en place, mais qui, au bout du compte, ces règles-là, ben, peuvent s'appliquer dans un tome 2, un tome 3, un tome 4. Je veux dire, c'est le lieu, au bout du compte, la vedette première, et c'est ce lieu sans morale, au bout du compte, où la ruse domine, comme disait Edouard tantôt.
Ben, c'est une allégorie, je trouve, justement, parfaite, hein, bien sûr, de la ruée vers l'or, de Klondike, mais justement aussi de ce qui est l'essence même de l'Ouest. Tu sais, t'as le pied tendre qui débarque, puis qui sera jamais vraiment adapté à l'endroit, puis qui aura beau essayer, puis qui aura beau qu'il va se faire arnaquer, puis qu'il va se faire... Puis t'as le type qui est un peu, j'oserais dire, né pour ça, tu sais, qui a l'âme de l'Ouest, puis tu sais, justement, dans le choix même, justement, parce que bon, le frère qui doit bâtir l'entreprise et tout, va chercher une espèce de guide qui est un monsieur, petit vieux monsieur avec la petite moustache qui a l'air assez, bon, gentillet et tout. On comprend que finalement, bon, il est peut-être pas tant que ça.
Qui a l'air tout disposé à aider un piéton qui vient d'arriver comme ça par mon tête de cœur.
C'est le vendeur de remède, là.
C'est le vendeur, oui, c'est ça, c'est vraiment le docteur Doxley, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, en contrepartie de ça, t'as justement, que je dirais presque une jeune Calamity Jane, justement une espèce de petite rouquine mal engueulée, clairement qui tu sais qui est là, puis qui elle est là pour faire la pièce, elle s'en cache pas, elle est là pour arnaquer le monde, elle a une sœur plus grande qui arnaque le monde aussi, elle s'en cache pas non plus, elle en est, tu sais, pratiquement fière. Mais je veux dire, c'est ça le bon choix. Je veux dire, dans l'univers de la fange, si tu veux t'en sortir, puis justement pas finir comme toutes les pauvres qu'on voit avec les pieds rongés, puis mon Dieu, qui en montent tout un florilège ou de pédaleux qui sont obligés de travailler pour les autres. C'est plate à dire, mais c'est elle qui l'a, là.
Mais
c'est
non, mais compris, c'est tout à fait la mécanique de qui a tué
Liberty Valance.
Liberty Valance, merci. Oui. Qui a tué Liberty Valance, c'est ça que ça raconte. C'est la civilisation qui s'en vient dans l'Ouest. Mais avant d'y arriver, je veux dire, c'est ça, là. Le personnage de John Wayne explique au jeune avocat qui s'en vient dans l'Ouest, si tu veux te débrouiller, c'est beau tes livres de loi, mais ici, c'est... Et là, il présente son Colt en lui disant, c'est ça qui fait la loi. Et pour faire la transition, alors, quand t'arrives dans... une place où c'est le Far West, il faut que tu joues avec les règles ou qu'il n'y a pas de règles. Il faut vraiment que tu t'adaptes si tu veux survivre. Et c'est ce qui se passe dans la France. Et au sacrifice de je pense à la mère, et elle, un coup qu'elle les a amenés là, que leur rêve, pas américain, mais australien, est arrivé, elle, un coup qu'elle est là, mais elle va se sacrifier jusqu'à la fin pour que ses deux fils... part de cette fameuse entreprise de yoga.
Oui, puis d'ailleurs, non, c'est pas donné en partant parce que, ben là, elle, ils sont arrivés sur place, elle a cédé tout son magot à son fils préféré, elle va tomber malade, donc va vraiment falloir qu'il se débrouille. C'est une très bonne illustration. Il y a un proverbe en anglais qui s'appelle « There is the rope, go hang yourself ». Donc, voici la corde, va te pendre maintenant parce que, ben, il y a tellement de marge de manœuvre que... Bonne chance pour pas te planter.
Il y a tellement de marge de manœuvre et je pense que la clé, Edouard Marco, vous l'avez dit, c'est que dans le fond, il y a un personnage qui fait le choix d'essayer d'être gentil, qui fait le choix de faire abstraction de l'endroit où il se trouve en disant « il y a assurément du bon, il y aura assurément du bien ici » et qui essaie d'agir en homme moral. Et au bout du compte, ben, c'est ce qui va faire de lui l'andouille parfaite qu'on peut justement arnaquer, qu'on peut accrocher, qu'on peut figurativement pendre au bout du compte, parce que il faut garder conscience de l'endroit où on se trouve. Et c'est le balancier, parce que l'album, dans le fond, va être un peu entre les deux, entre celui qui accepte de comprendre les règles avant de jouer et l'autre qui joue avant de comprendre les règles, au final.
Mm-hmm. Oui. C'est le point d'ancrage du Far West, quand on parlait d'éléments, c'est ça, c'est qu'on retrouve partout. Je veux dire, comme je disais au début, l'Ouest, c'est un monde qui est dur. Et peu importe, regardez toutes les BD, je veux dire, c'est justement, si tu veux survivre, c'est un monde qui va t'obliger à être aussi dur que lui. Que tu le veuilles ou non, je veux dire, par la force des circonstances, tu vas en arriver là. Puis si tu fais pas ce choix-là, ben, tant pis pour toi, mon ami, mais c'est ça, là, tu seras pas de ceux qui ont prospéré. Là,
non, puis au-delà de ça, les légendes qu'on connaît étaient pas toutes blanches. Il y avait des noirs qui se sont illustrés, mais qu'on parle à peine. Il y avait des femmes qui se sont illustrées, dont on parle à peine, là, qui n'avaient pas jusqu'à Limited Jane. Je pense à Annie Huxley, qui faisait partie du show de Buffalo Bill.
De Buffalo Bill.
Qui savait tirer de la carabine comme.
Non, effectivement, en fait, on réhabilite peut-être progressivement aussi une vision plus. Ouais. Plus global, moins centré vers un genre, vers une couleur de peau, pour illustrer peut-être ce qu'était réellement cet Ouest sauvage-là, au bout du compte.
Et descendre les légendes de leur piédestal.
Alors, en fait, je rappelle le thème du club de lecture d'aujourd'hui, c'était l'indépendance et la force de caractère de la femme d'aujourd'hui ont été forgés par la conquête de l'Ouest américain. Thème proposé par Marco, ou paragraphe proposé par Marco. On a jasé 4 albums au fil de la dernière heure, donc de Matt Alton, de Goscinny et Morris chez Lucky Comics, de Wild West, tome 1, Calamité Jane, de Jacques Lamontagne et Thierry Gloris chez Dupuis, de Ladies with Guns, tome 1, d'Olivier Boquet et Enlard chez Dargaud, et de La Fange de Pat Grant chez Ici Même. Alors, on en jasait le on et Émilie Roy-Brière, Édouard Tremblay, Marco Duchesne. Merci à vous trois.
Un plaisir.
Et on se dit évidemment au mois prochain. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine. C'était La vie en BD.